Cours de philosophie première, TP Marie Dominique Philippe, le 3 mai l'an 2000 à Saint-Jean-d'Arc.
Après Pâques, vous êtes ressuscité. Alors, c'est un homme nouveau. Je vais aujourd'hui et demain terminer ce que nous avons fait pendant et le semestre précédent, les semestres précédents. La recherche de la substance. N'oubliez pas, il faut bien comprendre cela, qu'on ne peut pas s'arrêter à la philosophie du vivant. Si importante que soit le De Anima d'Aristote, si importante que soit la philosophie du vivant, elle n'est pas ce qui peut me faire comprendre ce qu'est la personne. Or, c'est proprement ça que nous cherchons en philosophie. En philosophie, nous savons que regarder l'homme uniquement du côté de la vie, dans l'immanence, c'est très important, c'est capital. Parce que si on n'a pas le dianima, on recherchera le point de vue psychologique et on restera dans le conditionnement. Donc, dans la relativité, tout le temps, c'est d'une certaine façon infini, la psychologie, puisqu'on est dans le conditionnement. C'est très important, la philosophie du vivant, surtout maintenant. Mais la philosophie du vivant n'est pas suffisante. L'homme a une autonomie. Il est capable de poser des actes libres. Il est capable de rechercher ce pourquoi il est fait, sa finalité. Il faut qu'il comprenne ce qu'il est comme esprit. Et en même temps, avec son corps, l'unité profonde qui est en lui. Dans la vie, vous voyez la diversité, les différents degrés de vie. L'unité se fait par la finalité, c'est vrai, au point de vue de la vie. Mais il y a une unité radicale au point de vue de son être. Il est une personne. Vous voyez, avec le problème de la personnalité, on est conduit nécessairement à la métaphysique, à rechercher l'analyse de l'être, d'un être spirituel. Et la première chose qu'on trouve, qu'on découvre, c'est le principe propre selon la forme de ce qui est. C'est la substance. Et ce problème de la substance est particulièrement délicat. Si on regarde au point de vue historique, chez les philosophes, on voit que c'est un problème qu'Aristote a étudié d'une façon très particulière. Et pour bien préciser ce que c'est que la substance, il a préciser qu'elle n'est pas l'acuité, qu'elle est au-delà de l'acuité. Saisir l'intelligibilité de l'homme ne suffit pas à savoir ce qu'il est. Saisir sa quiddité ne suffit pas à savoir ce qu'il est. Il faut découvrir ce qu'est l'homme, ce que je suis. Et c'est là où il y a cette recherche que nous avons fait ensemble de la substance. C'est-à-dire du principe propre selon la cause finale, selon la cause formelle de ce qui est. Étant donné la difficulté de saisir la substance comme principe propre de ce qui est, et c'est vrai, historiquement, qu'est-ce qui a saisi la substance ? C'est Aristote. Platon ne l'a pas saisi. Il est resté à la forme en soi, et pas au principe, pas à la cause de l'être. Aristote, face à Platon, a découvert ce que la substance. Face à Hegel, nous devons nous découvrir la substance. Hegel n'a pas saisi ce que c'est que la substance. Et tous ceux qui sont avec lui dans la mouvance hegelienne, avant ou après, n'ont pas découvert ce que c'est que la substance. Le marxisme n'a pas découvert ce que la substance. L'égalisme de droite ou de gauche n'a pas saisi la substance. Ou c'est la forme, ou c'est la matière. Alors, comprenons que si j'ai saisi la substance au plan métaphysique grâce à l'induction, je ne peux la saisir que par l'induction. L'induction est une méthode philosophique qui passe de l'expérience à la découverte de la cause. La cause est invisible. Elle est un principe que seule l'intelligence saisit. Mais elle la saisit à partir de l'expérience. Donc, pour saisir, ça c'est général, n'est-ce pas ? Pour saisir la cause selon la forme de ce qui est, il y a une méthode inductive. Nous avons essayé de faire cette méthode inductive. Une fois qu'on a découvert la substance, on peut essayer de montrer que toutes les modalités de l'être, que toutes les différentes formes, déterminations de l'être, proviennent de ce principe. Et on peut chercher à voir le lien qu'il y a entre la substance et la qualité, la substance et la quantité, la substance et la relation. Ce que nous avons essayé de faire. C'est vrai, les relations, j'en ai l'expérience. La quantité, j'en ai l'expérience. La qualité, j'en ai l'expérience. La qualité détermine un être. J'ai des qualités. C'est pas mon être profond. Mais ça me sert à beaucoup d'entrer en relation avec les autres. Parce que ma substance, elle m'isole. Je suis seul. Alors, j'ai beau la regarder, elle ne met jamais en relation avec les autres. C'est pour ça qu'on l'ignore si facilement. parce que les autres sont tellement encombrants qu'on ne peut pas les nier. Alors les autres, ils sont ou des amis ou des ennemis. Ils sont encombrants ou au contraire, ils me permettent d'aller plus loin. Je m'en sers. Donc il est important de saisir la relation relativement à la qualité, relativement à la quantité, relativement à la relation. Ça, c'est très important. Au fond, la qualité, elle a une signification. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Elle a une quidité. Et toutes les espèces de qualité ont des quidités. Mais ce n'est pas la substance. Ce ne sont pas des principes. La relation, elle a une quidité, mais elle n'est pas non plus principe. Elle est toujours relative, seconde. La puissance, les puissances et capacités que j'ai, c'est très important, mais ce n'est pas premier. C'est toujours quelque chose relatif aussi à l'activité. Donc, ayant découvert la substance, du moins, ayant essayé de la découvrir, on la découvre ou personnellement, ou grâce à celui qui nous dit qu'il a découvert, et on le suit par derrière. Et puis petit à petit, notre intelligence s'éclaire. Vous savez, l'induction nous fait découvrir le progrès de l'intelligence. C'est pas dans mes conclusions, mais c'est dans l'induction qu'on voit le progrès de l'intelligence. L'intelligence s'éveille dans l'induction. Elle s'éveille dans l'induction. C'est très curieux. Et c'est très beau d'assister à ça, intérieurement. C'est un feu d'artifice merveilleux. Tout d'un coup, mon intelligence dit, oui, c'est vrai. Je ne peux pas m'arrêter au sujet, je ne peux pas m'arrêter à l'acuité. Substance première, substance seconde. Et pourtant, cette substance première a quelque chose de capital. Cette substance seconde a aussi quelque chose de capital. Mais elles ne sont pas principes. Elles sont quelque chose qui risque de m'arrêter. Je risque de m'arrêter toujours au sujet concret. Pierre, Pierre. Papa, c'est l'homme. Je risque de m'arrêter donc au sujet. Et je risque de m'arrêter, si je suis idéaliste, à l'acuité, homme. Homme n'est pas substance. Il me donne quidité, certaines significations de l'être, mais ce n'est pas la substance de l'être. Et pour saisir la richesse de la substance, une fois que j'ai saisi, je regarde les relations qu'il y a entre cette substance et les qualités. Et je vois qu'en effet, la phénoménologie, ça reste aux qualités. Elle est merveilleuse pour les qualités. La phénoménologie me fait promener intellectuellement, me fait promener sur les diverses qualités. le visage. Je peux décrire le visage de quelqu'un, le visage de l'homme. C'est pas le visage de la vache. Regardez le visage de la vache. Elle a une figure, la vache. C'est une figure très spéciale. Et le taureau, il a une figure de taureau. Et le lion, il a une figure. Tout ça, c'est magnifique. Mais au point de vue de l'être, d'où vient cette figure? Ah, il y a quelque chose de radical. C'est la substance. Et pour cela, il faut la métaphysique de l'être. La qualité, c'est bien de l'être, mais ce n'est pas l'être. C'est bien de l'être, c'est sûr. Ma figure, elle existe. Ma figure humaine, ma physionomie. Et puis si je vais plus loin, je vois qu'il y a des qualités plus profondes. L'intelligence, la connaissance, l'amour. Et c'est pas tout, ça. Il y a des gens, des personnes qui sont très intelligentes, qui ont un cœur dur. Et des personnes qui ont un cœur magnifique et pas d'intelligence. Je suis bien obligé de reconnaître ça. Mais qu'est-ce qui fait l'unité ? Ah, les qualités me permettent de comprendre que la substance est source de ces qualités. Et donc ces qualités que je décris me permettent de comprendre la richesse de la substance. Elle est source de ces qualités. Elle est source de, ces, de la quantité. Elle est source des relations. Elle est source des capacités. C'est extraordinaire, là. Donc, regarder la substance comme source de toutes ses qualités, ses quantités, ses relations, tout ça, c'est me permettre de comprendre la richesse de la substance. Principe selon la forme de ce qui est. La substance, pour moi, c'est mon âme. Et mon âme est source de toutes les qualités qui sont en moi. Et toutes les qualités qui sont en moi proclament la profondeur, la richesse de mon âme. La physionomie, voyez. Léonard de Vinci disait qu'à 45 ans, on a la physionomie. Qu'on a acquise dans notre physionomie à nous. Et je me rappelle une fois, c'était très joli, quelqu'un que je connaissais bien, très bien, qui était militaire, je dirais qu'il est mort en Indochine. Et il emportait avec lui uniquement la somme théologique de Saint Thomas. Seul livre qu'il avait. Il était officier de la Légion. Alors, il m'a raconté cette petite histoire. Travailler avec ces hommes, parce qu'avec la Légion, il faut être très proche d'eux, tout en étant officier, travailler avec eux. Donc, il avait enlevé sa veste d'officier, et par le fait même, tous les galons disparaissaient. Alors, le général passe et dit : où est l'officier ? J'ai dit : attends, je ne vois pas. Alors, lui se lève, et est nu. Comment va-t-on reconnaître l'officier si vous êtes comme ça, au milieu d'eux, comme eux ? Là, il a répondu, à sa gueule, capitaine. C'est pas le vêtement qui fait l'officier. C'est pas les galons, c'est sa gueule. Vous voyez ? Eh bien, philosophiquement, c'est très fort, ça. Ça montre exactement ce que c'est à travers la physionomie que la substance s'exprime. On trouve... Ah oui, c'est difficile, la traduction de la gueule, ça. Parce que c'est... Ça exprime parfaitement ce que c'est que la physionomie. C'est ça. Il y a quelque chose qui s'exprime et qui manifeste l'intérieur. Donc, la substance, c'est capital pour nous. Si on veut découvrir ce qu'est la personne, la première chose qu'on découvre, c'est l'autonomie de la personne au point de vue de l'être. Vous voyez, il y a des quantités d'hommes qui n'ont pas de personnalité, qui sont des moutons, ils suivent. Je ne découvre pas la personne dans le fait de suivre. La personne a son autonomie. Et son autonomie dépend de sa substance. Tant que vous n'avez pas découvert votre substance au plan métaphysique, votre âme, vous n'avez pas découvert votre autonomie. Vous n'avez pas d'autonomie en dehors de la substance. C'est ça qui est important. Mais l'autonomie n'est pas tout. L'autonomie est, j'allais dire, une pièce principale de la personne. Quelqu'un qui n'a pas d'autonomie, qui est tout le temps relatif à un autre, tout le temps en référence à un autre. Lorsqu'il n'a plus de référence, il est complètement perdu. Parce qu'il n'a pas d'autonomie. C'est par mon autonomie que je saisis ma finalité. Et c'est l'autonomie et la finalité qui fait la personne, qui me prend entièrement. Et dans mon autonomie, je peux voir différentes qualités que j'ai qui manifestent cette autonomie et qui montrent cette autonomie. Alors, il y a des gens qui ont leur autonomie par leur habit. Je reviens par leur habit. Ah, quand j'ai mon habit, j'ai mon autonomie. Mais non, l'habit manifeste votre autonomie. Mais s'il n'y a rien, c'est pour ça qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Parce qu'il ne me donne pas l'autonomie. Mais il manifeste mon autonomie. Sociologiquement, l'habit manifeste. Quand vous supprimez cette manifestation, comme la plupart des gens n'ont pas d'autonomie propre et n'ont que la manifestation, il n'y a plus rien. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont des mannequins. Le mannequin, il n'y a que l'habit. Derrière, il n'y a rien. Alors vous êtes espèce de mannequin. Un habit qui circule, mais il n'y a que l'habit. Alors qu'au contraire, il est rattaché à la substance, l'autonomie, quelque chose d'intérieur. Oui, je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez que cette recherche de la substance est capitale au point de vue philosophique. Si je ne découvre pas la substance, je ne pourrai pas découvrir l'autonomie profonde de la personne humaine. Et c'est toujours là, sur ce point précis, que vous devez interroger ces diverses philosophiques. Ces diverses philosophiques qui ne sont pas des philosophies de l'être. Ils n'arrivent pas à préciser ce que c'est la personne. Il ne faut jamais oublier que la métaphysique s'achève dans la connaissance de la personne. On recherche son autonomie et sa finalité. Et toute la métaphysique consiste l'autonomie et finalité. L'autonomie, la substance, principe propre de ce qui est selon la forme. La fin, principe propre de ce qui est selon la fin, c'est l'acte. C'est la substance et l'acte. Une fois que vous avez la substance et l'acte, vous pouvez comprendre, saisir, que c'est l'harmonie des deux qui fera ma personne. Et chez certains, l'autonomie est très forte, mais la finalité très faible. Chez d'autres, la finalité est très forte, l'autonomie très faible. Des deux côtés, vous avez des êtres qui ne sont pas en harmonie, qui ne sont pas équilibrés. Il faut avoir l'autonomie profonde pour pouvoir découvrir sa vraie finalité. Et pour découvrir sa vraie finalité, il faut tout le temps qu'il y ait cette autonomie. Donc, voyez la recherche que nous avons faite jusque maintenant. Nous avons essayé de saisir la substance comme principe propre selon la forme de ce qui est. Quand on dit selon la forme, c'est-à-dire selon l'acuité, selon son intelligibilité. C'est la forme qui donne l'intelligibilité de l'être. Principe propre. Donc quelque chose que je saisis comme un certain absolu. Il y a un certain absolu en moi qui est mon âme, qui est ma substance. Un certain absolu. Je porte en moi cet absolu. Et chacun d'entre nous, nous portons en nous cet absolu. Et cet absolu est plus ou moins développé, est plus ou moins épanoui. C'est vrai. Il y a des mannequins, pas un noviciat, c'est pas de mannequin. On détruit les mannequins au noviciat. Et on fait des feux de Saint-Jean-Baptiste, on brûle les mannequins pour être dans la vérité. Parce que c'est vrai, on rencontre constamment dans le monde des habits parfaits, des tenues parfaites, puis on croit qu'il n'y a rien derrière. Extérieurement, la manifestation était parfaite. On était devant quelqu'un qui... Et puis, profondément, il n'y a rien. Vous voyez, il faut être capable de porter de l'habit. Et ce n'est pas l'habit qui donne la manifestation, et qui... ce n'est pas l'habit qui, donnant la manifestation, donne l'autonomie. L'autonomie est autre et elle provient vraiment de la substance. Elle provient de mon âme. Alors, nous étions restés sur la relation. Les relations, c'est quelque chose de très important. Et je vous avais dit, dans la philosophie hegelienne, la relation, c'est comme la substance. c'est la somme des relations qui fait la personne. Donc vous définissez la personne par la relation. Et je ne définis pas la personne par la relation. D'abord par l'autonomie, l'âme. J'ai une âme qu'il faut sauver, la personne. Et je prends conscience que mon âme, c'est capital. Et si je fais un métier où mon âme ne peut pas se développer, où mon âme est constamment arrêtée dans son développement, je sens très bien que ce métier ne m'épanouit pas, que ce métier ne me permet pas d'être moi-même. Ce métier me diminue. Je peux moi-même découvrir ça, et je dois le découvrir. Je dois découvrir si les relations que j'ai me permettent d'être plus moi-même, ou les relations que j'ai diminuent ma personnalité. Si les relations que j'ai diminuent ma personnalité, je suis constamment dans un état où je ne peux pas être en harmonie. Je suis mal dans ma peau, je suis mal dans mon vêtement, je suis mal dans mon habit. Ma physionomie que les gens regardent ne correspond pas à la réalité profonde. Alors que si la réalité profonde se manifeste parfaitement par les choses extérieures, je suis bien dans ma peau. Oui, c'est très important de comprendre la place des relations. Je vous avais dit, point de vue philosophique, Aristote dit que la relation, c'est l'être le plus débile. Pourquoi Aristote dit ça, que la relation, c'est l'être le plus débile? C'est parce que toute relation a besoin d'un fondement. L'intelligibilité de la relation ne peut se faire que par son fondement. La relation, c'est d'être ordonné à l'autre. Être ordonné à l'autre, ça ne définit pas ce que je suis. Être ordonné à l'autre, mais c'est très bien si je suis quelqu'un, mais si je ne suis pas quelqu'un, ordonner à l'autre, pour le comprendre, il faut voir qu'est-ce qui est ordonné à l'autre en moi. Ordonner à l'autre ne précise rien. Il faut savoir ce qui me permet d'être ordonné à l'autre, donc le fondement. La relation, on saisit sa quiddité, son intelligibilité, par son fondement. Je suis semblable à tel autre. J'ai la même forme d'intelligence. Je suis en harmonie constamment avec lui. Il y a une similitude profonde, et cette similitude est au niveau de l'intelligence. C'est merveilleux. Voyez, cette similitude, elle peut être à un niveau très extérieur. J'ai le même habit. J'ai le même habit. Alors, si l'habit prend tout, oui, je suis relatif à l'autre. C'est les inconvénients d'avoir tous le même habit. C'est que je n'ai pas cette possibilité de m'exprimer par mon habit. Je suis pauvre en ayant le même habit que tous les autres. J'ai quelqu'un à côté de moi qui a le même habit que moi, mais qui est totalement différent. Et c'est ennuyeux, il a le même habit. Et on se prend constamment l'un pour l'autre, de l'extérieur. Tous ceux qui ont le même habit ont la même tête. Et pas du tout, c'est très différent. Et il faut saisir que la relation se définit par... par son fondement. Et c'est pour ça que c'est un être qui ne se tient pas par lui-même. Bon, si cet être ne se tient pas par lui-même, il est débile. Il a besoin de s'appuyer sur un autre. Il n'a pas de tenue par lui-même. La relation n'a pas de tenue par elle-même. Elle n'a pas de caractère par elle-même. Son caractère, ça lui vient de son fondement. Et c'est pour ça, du reste, que vous pouvez avoir des relations de raison. Les relations réelles à un fondement réel, objectivement réel. La relation de raison a comme fondement l'acte d'intelligence. L'universel est une relation de raison. L'universel. Bon, tous vous connaissez ce que c'est que l'universel. C'est capital, l'universel, puisqu'il n'y aurait pas de science s'il n'y avait pas la possibilité d'atteindre l'universel. Quand vous saisissez la signification de « homme », vous saisissez quelque chose d'universel. Tous les hommes que vous connaissez, les singuliers, tous sont hommes. Vous avez, par l'intelligence, abstrait les diversités, les individualités, et vous avez retenu ce qui est commun entre tous les hommes. Donc, vous voyez que le fondement de l'universel, c'est l'acte de connaissance. C'est l'intelligence qui, en connaissant une réalité, abstrait tout ce qu'il y a de singulier, tout ce qu'il y a de particulier à telle réalité, pour saisir ce qu'il y a de commun avec toutes les autres réalités qu'on appelle homme. C'est l'intelligence qui fait ça. Et l'intelligence est capable de faire ça. Et c'est très important de voir comment l'intelligence fait cela. Quand je connais quelque chose, je saisis quelque chose d'essentiel, la quiddité de cette réalité, ce qu'elle est, et j'abandonne les autres. Quand je saisis un principe, je saisis la ratio spéciale de ce principe, et j'abandonne tout le reste. Je fais ça automatiquement. C'est vrai. Vous passez de homme Pierre à homme. Vous avez réfléchi. Quand vous avez appris une langue, vous passez de l'individu à l'abstrait. Et si vous réfléchissez, c'est l'intelligence qui a passé de l'individu. L'individu, on peut toujours l'exprimer par mode d'expérience. Vous pouvez toujours rencontrer un individu. Vous ne pouvez jamais rencontrer l'universel. C'est curieux. Jamais. Il y a des choses très curieuses. Mais vous ne pouvez pas. Avez-vous saisi ce que c'est que l'universel par votre intelligence? Vous êtes passé de tel individu à progressivement l'universel, l'enfant. Il faut toujours prendre cela comme premier exemple. Il dit papa à telle personne, sa maman lui montre papa. Tous les hommes qu'il peut voir après, il les appelle des papas, jusqu'au jour où il va faire la différence entre l'homme et tel homme. Et il fait ça très vite, instinctivement. comment faites ça? C'est quand même très cru, cette chose. Vous passez de homme que vous expérimentez, auquel vous donnez la main, à homme, ce qui est commun à tous les hommes, Pierre, Jean, Jacques, que vous reconnaissez. Et c'est votre intelligence qui est passée de l'individu à l'universel. Ça, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. C'est capital. Parce qu'au fond, toutes les philosophies ont réfléchi là-dessus et ont expliqué ça diversement. Et la différence entre Platon et Aristote, elle est là, fondamentalement. C'est que pour Aristote, l'expérience saisit les individus et l'intelligence saisit l'universel. Pour Platon, il faut saisir l'universel avant l'individu. Il faut saisir les idées abstraites avant l'individu. Et vous saisissez les individus quand vous avez saisi l'idée en appliquant. Et d'où ça vient, cette connaissance universelle? Ah, elle est donnée, infuse. Elle vous est donnée immédiatement. Donc, vous avez automatiquement toutes les connaissances universelles et vous les appliquez. Aristote dit, ça c'est faux, on acquiert ça. Pour Platon, il n'y a pas d'acquisition de la science. On l'a ou on ne l'a pas. Vous voyez que vous touchez quelque chose de capital au point de vue de la vie de l'intelligence quand vous arrivez à saisir la différence entre ce qui est objet d'expérience immédiate, c'est sensible, c'est les qualités que vous saisissez, et puis quelque chose d'universel, homme. Et parmi les réalités que vous saisissez universelles, universellement, il y a l'universel univoque, l'universel analogique. Vous avez le principe, vous avez les natures que vous pouvez définir. Vous ne pouvez pas définir un principe. Vous saisissez ou saisissez pas. Mais c'est très important de saisir que nous avons deux manières, deux modalités différentes de saisir l'universel. Quiditativement, l'acuité. Oui, Aristote a inventé exprès ce mot quidité pour montrer le premier moment d'universel. C'est la quidité. Et le second moment d'universel, c'est le principe. Et puis, vous avez l'expérience. Et toute votre connaissance, toutes vos connaissances, c'est l'expérience, c'est la quidité, ce sont les principes. Et vous arrivez à préciser exactement les niveaux. Bon, alors, je prends l'application. Vous avez Pierre, une réalité existante que vous pouvez expérimenter. Vous savez, vous lui saisissez sa main, vous prenez sa photographie, vous voyez sa physionomie, vous voyez ce qu'il est. Vous connaissez cette réalité en disant, telle nature il a, homme. Puis vous saisissez ensuite cet homme particulier. Il a un être, il existe. y a en lui un principe d'existence, son âme. Et son âme vous fait tout de suite agir en découvrant sa substance. Sa substance, c'est pas ce qu'il est comme homme, mais ce par quoi il est un être particulier, un être qui a son autonomie. Il faut arriver progressivement à bien discerner ces trois manières. Vous êtes au niveau de l'expérience. L'expérience, on peut la décrire. On peut décrire l'expérience. On peut la décrire plus ou moins bien, mais on peut la décrire. Vous avez la connaissance quantitative par genre et différents spécifiques. Et puis, vous avez la connaissance analogique des principes.